VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 16h à Abidjan, bonsoir, bienvenue. On commence donc par le Burkina Faso. La fin de la crise engendrée par le refus du RSP de désarmer après l'assaut hier de leur caserne par l'armée loyaliste. Un grand soulagement pour la population, mais un gâchis pour le régiment de sécurité présidentiel. C'est en tout cas l'avis de Kidoulaye Corentin. Il est le responsable du centre de recherche stratégique à Ouagadougou.
Ici à Ouagadougou, tout le monde estime que c'est effectivement le dénouement de la crise, puisque le bastion du RSP qui restait à enlever, c'était celui-là, le camp Mabakom 2. Et depuis hier, ceci a été fait. C'est un grand sentiment de soulagement pour les Burkinabés. Je ne dis pas de joie parce que finalement, il n'y a pas eu de grand éclat de joie à Ouagadougou, mais un sentiment de soulagement tellement les gens étaient fatigués de cette crise. Car n'oubliez pas que le peuple a veillé depuis le 16 septembre, jusqu'à donc à ce dénouement hier 29 septembre. Mais aussi un grand sentiment d'achille finalement, parce que voilà des troupes d'élite, entre guillemets, qui auraient pu servir à la nation, qui auraient pu positivement épauler les grandes transformations qui sont en train de se faire actuellement au Burkina Faso, s'ils avaient un temps soit peu écouté les conseils, les appels, les injonctions que lui adressait le peuple, que lui adressaient les autorités. Et vraiment, c'était tout à fait dommage.
Monsieur Kidoulaye Corentin, il est le responsable du centre de recherche stratégique à Ouagadougou. Il a été joint dans la capitale burkinabé par Eric Manirakiza. Un chef Touareg d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, soupçonné d'avoir dirigé la destruction en 2012 du mausolée à Tombouctou, a comparu aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, une première à plusieurs égards pour l'institution. Claire Morin-Gibou.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste à comparaître devant la CPI, le premier suspect arrêté et poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Doté d'une épaisse chevelure frisée, d'une barbe et de lunettes rectangulaires, le suspect, habillé d'un costume bleu foncé très classique, a préféré s'adresser en arabe à la cour. Mon nom est Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, je suis de la tribu Touareg Al-Ansar, je suis né il y a environ 40 ans, a-t-il dit au juge. Selon l'accusation, M. Al-Mahdi était un des chefs d'Ansardine, un groupe islamiste radical associé à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est accusé d'avoir dirigé la destruction de 10 édifices religieux dans la vieille ville de Tombouctou, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La CPI avait ouvert en 2013 une enquête sur les exactions commises au Mali par les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. L'audience de confirmation des charges a été fixée au 18 janvier, étape de la procédure durant laquelle la procureure doit convaincre les juges que son dossier est assez solide pour mener à un procès.
En Côte d'Ivoire, plus d'un millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation dans le cadre d'un processus d'indemnisation débuté il y a 2 mois, a annoncé aujourd'hui Abidjan. Marietou Kone est la directrice générale du Programme national de cohésion sociale. Elle est en charge de l'indemnisation des victimes.
Au titre de l'indemnisation, nous avons commencé avec 4 500 personnes et aujourd'hui, l'indemnisation, je dirais, se porte bien parce que près du tiers a reçu réparation. Près du tiers des victimes a reçu réparation.
Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été donné à ces gens qui ont subi les effets de la guerre?
Grosso modo, il y a plusieurs types de préjudices, mais nous avons commencé par les décès, c'est-à-dire atteinte à la vie, et puis atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont subi des blessures physiques et morales. Pour les personnes qui ont perdu la vie, leur famille, en tout cas leur ayant droit, reçoit 1 million de francs CFA par personne, c'est par personne décédée. Et puis pour les personnes blessées, c'est la prise en charge médicale et psychologique totale et intégrale jusqu'à guérir.
Alors il y avait 2 camps opposés lors de la crise post-électorale. Est-ce que tous les camps ont été pris en compte, madame?
Non. en faisant les réparations sans tenir compte de camp. La mort n'a pas de couleur, la victime n'a pas de couleur. Qu'on soit de tel bord politique ou de tel autre bord politique, ce n'est pas ça. Les victimes ne sont pas répertoriées en fonction de leur bord politique, mais en fonction des cas de décès, en fonction des cas de blessures, en fonction des cas de pillage, etc., etc. Et donc, toutes les personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire, civiles comme militaires, reçoivent réparation. Leurs ayants droit reçoivent réparation, sans tenir compte de la religion, ni du parti politique, ni de l'appartenance ethnique.
Alors, jusqu'à quelle période cette indemnisation va s'étendre?
Le processus de réparation a commencé, il va continuer jusqu'à ce que toutes les victimes reçoivent réparation sur le territoire national et même au-delà s'il y en a qui sont à l'extérieur.
Pensez-vous que cette opération va contribuer à l'apaisement à un mois de l'élection présidentielle?
Fortement contribuer à l'apaisement et ça a déjà commencé parce que des gens qui n'avaient aucun soutien, qui n'avaient aucun pilier, qui voient maintenant qu'ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président. Ils reçoivent compassion également de toute la nation, je pense que ça soulage les douleurs. Et aujourd'hui, il y a un engouement autour du processus de réparation des préjudices dus aux victimes qui fait que nous ne pouvons que saluer l'opération et nous espérons que ceux qui étaient encore réticents, qui avaient lancé des mots d'ordre demandant aux gens de ne pas s'inscrire, que ces personnes-là comprennent qu'il faut que tout le monde s'inscrive pour bénéficier du fonds spécial d'indemnisation pour les victimes. Parce que ça ne tient pas compte de camp, ça ne tient pas compte de couleur, ça ne tient pas compte de religion, ça ne tient pas compte de parti politique.
Mariatou Kone, la directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale. Accalmie dans les violences en Centrafrique, les principales voies d'accès à Bangui ont été débarrassées aujourd'hui des barricades érigées par les manifestants, signe d'une baisse de la tension dans la capitale centrafricaine. La présidente de transition, Catherine Samba Panza, et pour le moment au Cameroun, où elle a atterri hier soir après avoir écourté son séjour à New York. Les violences à Bangui ont fait au moins 36 morts et près de 30 000 déplacés depuis samedi. Les manifestants exigent notamment la démission de la présidente de transition, alors que les élections présidentielles et législatives devant clore la transition prévue dès octobre pourraient une nouvelle fois être reportées. Des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés aujourd'hui à la mi-journée dans le centre de Pretoria pour manifester contre la corruption à l'appel de dizaines d'organisations de la société civile, ONG, syndicats, églises. Les manifestants devaient se diriger vers le siège du gouvernement. Une manifestation similaire était prévue également au Cap, siège du Parlement. Les marcheurs ciblaient particulièrement le président Zuma, empêtré depuis des mois dans le scandale de la rénovation de sa résidence de campagne privée. Sous couvert de travaux de sécurité, la facture des travaux s'est élevée à près de 20 millions d'euros. Des personnalités de la société civile, dont le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, ont apporté leur soutien à la manifestation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Première frappe aérienne en Russie, en Syrie. Première frappe aérienne donc russe en Syrie. L'information a été divulguée ce matin par Washington, confirmée par le Kremlin. Le Sénat russe a donné son feu vert tôt, très tôt ce matin. Les frappes semblent avoir été menées dans les environs de Homs.
L'intervention russe est loin d'être une surprise. Les intentions de Vladimir Poutine étaient claires depuis longtemps. Il ne lui manquait qu'une demande de Bachar al-Assad et un feu vert de son Sénat. Quelques heures à peine après l'avoir obtenu, les forces aériennes ont fait leur entrée dans l'espace syrien. On parle de frappes réussies. Les Russes disent avoir détruit des équipements militaires et des stocks d'armes et de munitions du groupe État islamique dans la région de Homs. La question qui se pose néanmoins, l'État islamique sera-t-il le seul dans la ligne de mire ? Pavel Felgenauer, analyste militaire, explique.
Il est fort possible que les forces de l'opposition syrienne, surtout la partie islamiste comme le front al-Nusra, proche d'Al-Qaïda, soient ciblées.
Cet engagement militaire ne concerne en tout cas que des frappes aériennes, excluant ainsi, pour l'instant, l'engagement de troupes au sol. Cette accélération de l'engagement de Moscou dans le dossier syrien s'inscrit sur fond de bras de fer entre Barack Obama et son homologue russe sur le sort à réserver à Bachar al-Assad. Washington le qualifie de tyran. Moscou voit en lui un rempart contre les djihadistes du groupe État islamique.
En Afghanistan, l'OTAN a déployé des soldats à Kunduz pour épauler l'armée afghane qui peinait à reprendre la main dans cette grande ville du nord face aux rebelles talibans. La mission de combat de l'OTAN en Afghanistan s'est achevée il y a 9 mois. Et selon le colonel porte-parole des forces américaines, les forces spéciales n'ont pas vocation à se battre, mais à conseiller, à soutenir leurs homologues afghans. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous dans 50 minutes. On se retrouve alors pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.